RFI, 6h44 en temps universel. Dans un quart d'heure, un nouveau journal et le point évidemment sur les frappes israéliennes en Iran. Cette nuit, témoignage d'une Iranienne à la une du prochain journal. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Le tour de la presse africaine avec vous et à la une, le général Assimi Goïta au pouvoir au moins jusqu'en 2030.
Au Mali, le Conseil des ministres a donc adopté un projet de loi qui accorde au chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable. Une initiative qui coule de source, si l'on en croit Sahel Tribune, qui se fait l'écho d'un sondage effectué début janvier par une fondation allemande, la FES, dont il ressort que 7 Maliens sur 10 font confiance au président de la transition et que 9 Maliens sur 10 sont satisfaits ou plutôt satisfaits de la gestion de la transition, sauf dans le district de Bamako. Sahel Tribune accorde par ailleurs un satisfecit sans réserve à la transition, estimant qu'il est normal que les autorités réalisent les souhaits du peuple. D'ailleurs, nous dit-on, elles l'ont toujours fait. Moins enthousiaste, Mali Web fait aussi sa une sur le maintien du général Assimi Goïta au pouvoir. Le site d'information rappelle l'émergence de l'Alliance des États du Sahel face à la menace terroriste alors que la fin de la transition semble de plus en plus incertaine et que des mécanismes sont mis en place pour dissoudre les partis politiques. Une décision pourtant contraire aux recommandations des Assises nationales qui avaient plutôt proposé une réduction du nombre de partis, remarque Maliweb, qui rappelle aussi le principal argument du Conseil des ministres. Notre pays, comme les autres de l'AES, est toujours confronté à la menace de déstabilisation internationale. Il est nécessaire de poursuivre la transition afin de parvenir à une pacification totale de nos États.
Nous prenons à présent la direction du Burundi où le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, remporte les élections législatives.
Le CNDD-FDD rafle tout aux législatives, titre Iwaku, publication qui ambitionne de donner la parole à toutes les voix du Burundi. À part 3 députés issus de la communauté des Batois cooptés, tous les autres sièges de l'Assemblée nationale seront occupés par le Parti de l'Aigle, explique Iwaku. Il s'agit de 108 sièges sur les 111 que comptera la nouvelle Assemblée nationale. En ordre dispersé, poursuit le journal, l'opposition fulmine, parle d'irrégularité flagrante et rejette ses résultats. Des résultats provisoires qui ont été proclamés par la Commission électorale indépendante lors d'une cérémonie à laquelle assistaient quelques indépendants qui sont repartis furieux, tête baissée, raconte Iwaku. Ils n'ont même pas attendu la fin de la prière pour accompagner et clôturer cette proclamation provisoire des résultats des législatives. Vu du Burkina Faso, l'analyse est la même, mais les mots sont plus durs. Ainsi, l'observateur Palga parle d'un score soviétique dans un Burundi où les élections se suivent et se ressemblent. Le pays n'a donc de démocratique que le nom, poursuit le journal. Pour tout dire, le général Évariste Ndayishimiye l'a transformé en un véritable camp militaire où tout le monde est obligé de marcher au pas au son du clairon, égard à celui dont la tête dépasse d'un iota.
Et puis dans l'actualité africaine également, la progression de la caravane Soumoud en solidarité avec Gaza, partie lundi de Tunisie.
Eh bien cette caravane est bloquée à l'entrée de Sirte en Libye par les forces de l'Est, annonce le journal La Presse en Tunisie, qui explique que selon les responsables sécuritaires sur place, le convoi ne pourra poursuivre sa route sans instruction explicite de Benghazi. Face à cette situation, poursuit le journal, le comité de coordination de la caravane Soumoud a pris la décision de ne pas rebrousser chemin. Le convoi s'est rangé sur le bas-côté de la route à quelques kilomètres de Sirte et était prêt à camper sur place pour la nuit si nécessaire. Les organisateurs, écrit également la presse, tiennent à rassurer les familles des participants. Tous les membres du convoi sont en sécurité et réunis en un seul point. La coupure des réseaux téléphoniques à l'endroit de leur arrêt explique l'absence de nouvelles.
Merci Catherine Potet.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et à la une de l'info ce matin, ces frappes israéliennes d'une ampleur inédite sur l'Iran. Cette nuit, 200 avions mobilisés, une centaine de cibles et plusieurs sites militaires et nucléaires touchés. Le chef des gardiens de la révolution, le chef d'état-major de l'armée et des scientifiques de premier plan ont été tués. Téhéran promet de riposter. L'ayatollah Khamenei affirme qu'Israël sera sévèrement puni. Les deux pays ont fermé leur espace aérien. Ce matin, Israël a affirme avoir intercepté des drones qui se dirigeaient vers son territoire. Inquiétude de la communauté internationale. L'ONU a appelé les deux parties à la retenue maximale. Donald Trump dit avoir été prévenu en amont de ces frappes, mais les États-Unis nient toute implication et appellent à ne pas s'en prendre à leurs intérêts dans la région. À New York, hier soir, un vote et l'Assemblée générale de l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire pression sur Israël. Et puis en Inde, les sauveteurs passent au peigne fin le site du crash d'un Boeing d'Air India où s'est rendu Narendra Modi ce matin. L'avion qui venait de décoller pour Londres s'est écrasé hier dans un quartier résidentiel d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde sur une résidence étudiante. Au moins 265 morts, et seulement un survivant parmi les 242 passagers du vol. Un pas de plus vers l'adoption d'un traité sur la protection de la haute mer. Un appel de 95 pays à limiter la production plastique pour limiter la pollution des mers. Quel bilan tirer de la conférence des Nations Unies sur l'océan? Elle s'achève aujourd'hui à Nice, dans le sud de la France, après 5 jours de discussion pour mieux protéger ce grand bleu qui recouvre 70% de notre planète Terre. Pour en parler, notre grande invitée Afrique de ce matin est la chef de la délégation congolaise à Nice, ministre d'État et ministre de l'Environnement et du Développement Durable en République démocratique du Congo, Eve Bazaïba Massoudi est au téléphone de Christophe Boisbouvier.
Madame la ministre, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous retenez de cette troisième conférence de l'ONU sur l'océan?
C'est vraiment une initiative très importante parce que ça nous permet de mobiliser davantage les soutiens politiques de très haut niveau aux initiatives africaines et surtout susciter un élan de développement et accélérer les investissements sur les infrastructures portières. C'est ce qui nous manquait, et renforcer la gouvernance océanique. Et en ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons présenté le fait que la montée des eaux de la mer, par exemple, où les pays insulaires sont en danger, c'est une conséquence logique du réchauffement de la planète. Donc on ne peut pas dissocier la conservation, la protection des forêts et la gestion durable donc, de nos mers. Et dans cette optique-là des partenariats gagnant-gagnant, la République démocratique du Congo, tout en étant victime de la situation dont elle n'est pas responsable, apporte une solution. Les forêts, les ressources en eau, les minerais critiques ou stratégiques. Et de l'autre côté, les autres pays qui vont venir en partenariat avec nous vont apporter le fonds, le transfert des technologies. Voilà un partenariat gagnant-gagnant qui va sauver l'humanité.
Donc il faut une coopération scientifique et des transferts de technologies.
Tout à fait, parce que les populations seront obligées de changer leurs habitudes. Nous qui sommes à la fois pays forestiers et pays qui a accès vers la mer, nous devons changer nos habitudes dans la conservation des forêts, dans la gestion durable des océans. Par exemple, la lutte contre la pollution plastique, par exemple la protection des mangroves, par exemple arrêter l'agriculture itinérante sur brûlis, ne plus utiliser à outrance les bois comme énergie. Et ça demande des moyens, ça demande des fonds, parce que protéger la RDC, c'est sauver l'humanité. La RDC ne peut pas être un pays qui fait face à des conflits, par exemple, pour nous distraire. À l'est du pays, vous avez vu où il y a des vautours qui viennent pour l'exploitation illégale, illicite de nos ressources minières. Nous avons besoin de la paix et d'une paix durable.
Eve Bazaïba Massoudi, vous avez parlé de la pollution plastique. Alors, l'un des moments forts de cette conférence de Nice a été l'annonce que 95 pays soutenaient le projet d'adopter un traité ambitieux pour réduire la production de plastique et donc la pollution des mers. Qu'en est-il de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'elle fait partie de ces 95 pays?
Nous soutenons ces traités tout en disant que c'est un processus. On n'est pas là pour les stopper directement, ces plastiques. Nous allons y aller progressivement, c'est l'approche de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que des bouteilles en plastique, il y a plusieurs sortes de plastiques, y compris des pneumatiques, n'est-ce pas? En passant même par les jouets des enfants et autres ustensiles de cuisine, etc. La récupération, la transformation, le recyclage, etc. C'est comme ça que nous sommes dans ces processus dans notre pays.
Est-ce que la RDC est dans les 95 ou pas?
Nous sommes dans les 95 pays, nous sommes dans ces processus-là, nous l'avons commencé, bientôt il y aura les négociations négociations qui vont continuer à Genève. Nous sommes là, nous faisons partie de cela.
Le problème, Madame la Ministre, c'est que le plastique, il est fait à partir du pétrole et que beaucoup de pays pétroliers, comme la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, eh bien, ils sont opposés à cette limitation de la production de plastique.
Vous savez, eux aussi vivent le revers de la main de tous les procédés polluants qui sont en train de les utiliser. Tout ce que nous allons faire, c'est la conscientisation. Parce que si nous ne prenons pas garde, nous risquons de vivre l'hécatombe, y compris ces pays-là. Alors, nous devons y aller étape par étape, leur demander, par exemple, d'appuyer le processus de récupération de ces plastiques, le processus des déchets, et étape par étape, lorsque nous allons stopper la consommation, ben, lorsqu'il n'y aura plus des demandes, l'offre ne viendra plus.
Oui, mais ce que disent beaucoup, c'est qu'il ne suffit pas de gérer les déchets plastiques, il faut aussi réduire la production des plastiques.
C'est ce que j'ai dit, l'offre et la demande. Lorsque nous n'aurons plus des besoins des plastiques, et ils ne vont plus avoir l'intérêt à produire.
Oui, c'est ça. Il faut remplacer le plastique par autre chose.
Par les matières biodégradables. Au niveau des emballages, déjà, nous allons mettre des barrières sur la consommation des plastiques. Nous qui sommes des importateurs, nous allons arriver jusqu'à la limitation donc, de l'entrée des plastiques dans notre pays, ou en commençant d'abord par exiger des plastiques recyclés localement. Je pense que la demande va diminuer. Il n'y aura plus d'intérêt de fabrication. Donc, l'offre va s'arrêter de soi-même.
Ève Bazaïba-Massoudi, je vous remercie.
La ministre congolaise de l'Environnement et du Développement Durable en République démocratique du Congo, grande invitée Afrique de RFI avec Christophe Boisbouvier. Bientôt 7h en temps universel et bientôt l'heure d'un nouveau journal sur RFI. D'abord, votre sourire du vendredi, c'est la parlotte de Charlotte avec vous, Charlotte Ntamak. On connaît les conseillers d'orientation, mais vous nous dites qu'il y a aussi des conseillers qui désorientent.
Oui, dans le parcours scolaire ou professionnel d'un enfant, on fait parfois recours aux conseillers d'orientation. Ces professionnels de l'éducation nationale qui accompagnent élèves et étudiants dans leur choix. Le conseiller d'orientation, c'est quelqu'un qui sait trouver le bon mot, le bon ton et la bonne formule pour dire, par exemple, sans frustrer un enfant, ce qui pourrait s'entendre dans le langage du quartier par quelque chose du genre « Pardon, mon petit, avec les notes que je vois là, oublie l'affaire des séries scientifiques là. Même la série littéraire là, les profs vont trop souffrir avec toi. Si ça ne dépendait que de moi, hein, j'allais même te dire que, pardon, laisse l'affaire d'école là, ce n'est pas ton affaire. » Si le rôle du conseiller d'orientation est d'aider les individus à mieux se connaître et à les guider dans leurs projets, qui mieux que celui qui connaît un enfant et se connaît lui-même pour donner à l'enfant la bonne orientation ou plutôt la bonne désorientation? Incroyable! Je demande à mon fils ce qu'il veut faire après le bac. Il dit qu'il veut devenir pilote. Il veut ma mort. Je vais trouver l'argent ou pour lui faire faire les études de pilote. Je lui ai dit que s'il veut trop piloter quelque chose, qu'il apprenne à conduire la moto pour faire moto-taxi. Même si c'est comment, acheter la moto ne peut pas me dépasser. Amélie, c'est quoi cette histoire d'armée qu'une fille a en tête? Tu sais combien de femmes et même d'hommes meurent au service militaire? Si c'est une histoire de service, hein, tu vas faire hôtellerie. Comme ça, dès que tu obtiens ton diplôme, je t'achète un service de cuisine, tu ouvres le service traiteur.
Nous avons nous aussi besoin au quotidien de conseils pour notre orientation. Mais tout comme pour les élèves et les jeunes adultes, parfois, les conseillers d'orientation de notre quotidien sont plutôt des conseillers de désorientation, dont les conseils sont de vous désorienter de votre projet initial.
Man, tu m'étonnes, hein? Donc, avec toute la menuiserie là, tu te spécialises sur les salles à manger? Man, spécialise-toi dans la fabrication des cercueils. C'est ça qui donne l'argent.
Mako, ton garde te dit que tu veux faire quoi? Tu dis que tu te réinscris à l'université pour faire quoi avec les études de droit? Hein? Et tu vas faire quoi du bébé? Façon que je vois que tu gères bien la caisse de notre tontine là. Moi, je te conseille plutôt de lui dire de te donner le capital. Tu ouvres la boutique. Hein? Comme ça, quand il n'y a pas de client, tu peux continuer d'allaiter l'enfant. Pour une meilleure orientation, il est conseillé d'être à l'écoute des conseillers de désorientation qui sont en fait des conseillers qui vous donnent le bon conseil quand vous risquez de vous désorienter. À vendredi.
À vendredi, Charlotte. Et merci. Sur RFI, la suite, c'est un nouveau journal dans moins de 2 minutes. On fait le point, évidemment, sur la situation entre Israël et l'Iran après les frappes de l'État hébreu cette nuit sur le pays. Le journal est à suivre. À tout de suite.
ce samedi sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Vidia Mistral, c'est le grand partenariat annoncé cette semaine lors de l'événement VivaTech à Paris. Un investissement en milliards de dollars du géant de l'IA américain. Quelles conséquences pour ce secteur stratégique? Quelles implications pour les Européens et pour le reste du monde?
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Du 19 au 21 juin, le festival Gnawa et Musique du Monde revient à Essaouira plus vivant et plus intense que jamais. Trois jours de fêtes, de trance et de rencontres exceptionnelles. Plus de 30 madeleines seront entourées d'artistes venus des quatre coins de la planète. Sima Funk, Abera Labed, Rokia Kone, Dafer Youssef, Sike, Marcus Gilmore et bien d'autres. À Essaouira, les frontières tombent, les cœurs s'accordent et la musique unit. Rejoignez-nous du 19 au 21 juin 2025 pour un festival pas comme les autres. Plus d'informations sur festival-gnawa.net.
En partenariat avec RFI.
Un jour au village, Penaï Traoré.
La Centrafrique est un carrefour de la transhumance où convergent des pasteurs de plusieurs pays. Son cheptel est estimé à 4 millions de têtes, faisant de l'élevage l'un des pourvoyeurs de l'économie. Au-delà des conflits entre agriculteurs et éleveurs, le secteur est devenu un enjeu sécuritaire.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.